18 mai au 15 août 2000, à ce moment-là, le calendrier était disponible. C'est le 8 mai.
Oui, c'est ça, à ce moment-là. Ça faisait partie, finalement, du communiqué en date du 22 mars.
Est-ce qu'il y a une rencontre ou un suivi du, suite à ce communiqué-là qui figure donc à l'onglet 5 du 22 mars 2000? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les locataires ou leurs représentants?
Oui, je crois que le 24 mars, on a eu une rencontre avec l'ARCO à ce sujet-là.
Est-ce que vous étiez présente?
Oui, j'étais présente ainsi que M. Duval.
Et qui était présent pour l'ARCO le 24 mars?
Ben, il y avait M. Boulin, M. Grégoire, M. Boulin, qui était là. Ainsi que des membres de l'exécutif de l'ARCO qui étaient présents.
Okay. De quoi a-t-il été question lors de la rencontre du 24?
Bien, on a expliqué finalement, on a décrit le projet, puis la portée du projet, comment on allait faire ça. En fin de compte, on a repris un peu le document du 22 mars, puis on en a discuté avec lui.
La rencontre a duré combien de temps?
La rencontre a duré peut-être une heure ou deux.
Et quelles étaient de côté de l'ARCOM, les représentations, vos explications, tout le monde, votre description?
Moi, j'ai entendu dans les dépositions que le 24 mars, on leur aurait dit qu'ils allaient déménager un étage au-dessus, un étage en dessous. Moi, j'étais vraiment étonnée parce que dans la note du 22 mars, déjà, on disait que l'ensemble de la tour ouest devait déménager. Alors, je ne vois pas vraiment comment on a pu leur dire que le 24 mars, ça se peut pas, là, qu'elle a déménagé un étage au-dessus, un étage en dessous. Le 22 mars, on écrit à tout le monde que tout le monde avait déménagé.
Si vous aviez écrit ça, donc le 22 mars, pourquoi tout le monde devait déménager, à votre point de vue?
Bon, ben, d'abord, j'ai expliqué tout à l'heure tous les inconvénients de l'oubli qui étaient liés à la tour ouest. On considère que les gens étaient mieux servis en étant dans la tour ouest. On a demandé aux gens de déménager à partir du 1er mai dans le document. On sait que les travaux commençaient le 8 mai.
Vous parlez du document, est-ce que vous parlez du document du 22 mars?
Je vous parle de la date du 19 avril.
D'accord. C'est pas arrivé, mais oui.
OK.
J'anticipe.
Oui, mais c'est parce que. Donc, le 19 avril, on a expliqué aux gens qu'ils devaient quitter pour le 8, 9 et 10e étage, le 1er mai. Dans le document du 22 mars, on disait que les travaux commençaient le 8 mai.
Les travaux ont commencé à quelle date, en fait?
Ils ont commencé lundi le 8 mai.
Là, vous vous référiez justement au document du 19 avril 2000. Ça, c'est un document qui leur a été adressé également, c'est par vos services.
Dans les casiers postaux, c'est ça.
Est-ce que vous êtes également soit l'auteur, soit... c'est votre service qui a...
C'est mon service qui a préparé le document.
Ça a été envoyé à quelle date, ce
document? Ça a été envoyé dans la journée du 19 avril. Ça a été déposé dans chaque casier postaux.
Alors, vous étiez en train de parler justement de mon document par de lui-même. Le document indique une planification de déménagement dans la semaine débutant le 1er mai 2000. Vous mentionnez les travaux ont débuté le 8 mai. Quelle raison cette planification?
Bien, c'est un déménagement qui représente 396 personnes. Donc, évidemment, ça ne se fait pas là, du jour au lendemain. On a besoin d'une certaine marge de manœuvre. Alors, en fond, dans la lettre, on mentionnait au niveau académique que s'il y avait des gens qui avaient des examens, ben, de venir nous consulter et qu'on les accommoderait. Ce que j'ai vu des témoignages, c'est que tout le monde a dit que personne n'avait été obligé de déménager avant ses examens. On les a tous accommodés. Alors, cette marge de manœuvre-là nous a été utile.
Est-ce que c'était uniquement la marge de manœuvre pour les gens qui étaient en examen?
Non, parce qu'on a vu aussi, la difficulté qu'on a, c'est que les gens, ils partaient de la tour ouest vers la tour est. Et à partir des informations qu'on avait reçues sur la vie de renouvellement, les dates que les gens devaient quitter au niveau du séjour, de la prolongation du séjour d'été, c'était pas toujours respecté. Alors, c'est pour ça que les gens qui quittaient de la tour ouest à la tour est arrivaient dans une chambre où les gens n'avaient pas quitté. Donc,
les gens de la tour est n'avaient pas quitté. Pour quelle raison ils n'avaient pas quitté?
Les gens ne respectent pas toujours les règles. il donne une date, il la modifie, il est resté longtemps. Alors, ça, c'est un problème majeur parce que ça fait un effet de domino. Si la personne dit qu'elle va partir une journée, qu'elle ne part pas, ben, à ce moment-là, ça a un effet, évidemment, de domino sur tout le reste.
Bon, il y a combien de personnes? Vous avez dit le 30 avril, environ 600.
Bonhomme à l'un, là, il y a environ...
Donc, 450 désirés prolongés, c'est exact. 450 comptes prolongés pour l'été. C'est ce que vous avez dit dans votre témoignage.
Oui, exactement.
Et est-ce que les gens qui devaient donc quitter le 30 avril, donc qui n'ont pas indiqué de renouveler, qui allaient prolonger leur séjour pendant l'été, est-ce que tout le monde, effectivement, respecte les règles?
Non, tout le monde ne respecte pas les règles du jeu. Et c'est
qu'est-ce qui se retrouve à chaque année comme situation?
Ben, les gens ne quittent pas la date prévue. Ils peuvent quitter une journée, deux journées, trois jours plus tard. Alors nous, on se retrouve dans une situation où, par exemple, quand il y a des déménagements, ben, on est pris. On ne peut pas aller à la régie pour deux, trois jours. Non, c'est pas possible. Alors, on doit aviser les gens, les rappeler, leur faire des retours continuels pour qu'ils quittent. Puis d'ailleurs, quand il y a eu les travaux, le 8 mai au matin, je suis arrivée tôt au bureau pour m'assurer que tout était correct. Il y avait encore des gens à 7 heures le matin qui étaient là, qui n'avaient pas fait une boîte. Alors, ils ont quitté pour 9 heures, ils ont fait un déménagement en une heure ou deux. Mais c'est pas vrai que tout le monde respecte les règles.
Est-ce que vous avez également, bon, il y a un avis du 19 avril mentionnant des délais pour le déménagement. Vous avez également communiqué par voie de vocale avec les résidents?
Oui, on a le 26 avril rappelé aux gens qui devaient quitter. Puis on leur rappelait encore une fois que s'il y avait des cas d'examen, qu'ils simplement passent nous voir, qu'ils voient Mme Diamond et puis qu'on allait trouver une solution avec eux.
Alors, je vous présente, selon le 6, message diffusé aux locataires de la Tour Ouest. Est-ce que c'est bien le message qui a été adressé aux locataires de la Tour Ouest?
Oui, c'était un rappel qui a été fait aux gens de la Tour Ouest.
Alors, qu'avez-vous, suite à l'envoi donc, de l'avis du 19 avril, qu'avez-vous fait comme service, on parle des étudiants en examen, là, qu'est-ce qui est offert comme possibilité aux étudiants qui se présentaient? On a entendu quelques étudiants, entre autres du HEC, dont ces étudiants-là n'avaient pas terminé le 30 avril nécessairement. Alors, qu'est-ce que la résidence a pu faire pour rencontrer leurs besoins, si elle a fait quelque chose?
Oui, d'abord, dans un premier temps, les gens qui lisaient la lettre, qui m'avaient été invités à venir nous rencontrer. Dans un deuxième temps, on a envoyé un agent de sécurité qui a fait le tour de l'ensemble des gens qui restaient.
À quel moment?
Ça, c'était au début mai. Pour vérifier avec eux s'ils avaient un examen. Et s'ils avaient un examen et qu'ils restaient bien, qu'on leur avait proposé là, de prolonger leur séjour, on leur a fait un deuxième studio. Au 24-42, donc la résidence des garçons, parce que c'était plus tranquille, pour une période d'environ 2 semaines. Alors, ils pouvaient rester dans leur chambre, puis en même temps, ils disposaient d'un autre lieu où ils pouvaient étudier. Ils pouvaient y dormir s'ils voulaient, mais comme le soir, il n'y avait pas de travaux, les gens préféraient revenir dans leur studio.
Le deuxième studio, est-ce qu'il y avait des frais qui étaient...
Il n'y avait aucun frais pour le deuxième studio, c'était gratuit.
Est-ce que vous avez eu des plaintes d'étudiants qui étaient en examen, qui n'ont pas pu rester sur place après ou passer les dates prévues?
Non, tout le monde, tous les étudiants qui sont venus nous rencontrer à ce sujet-là ont trouvé une solution qui est satisfaisante.
Tu as parlé également de la question du déménagement lui-même, les chariots. C'était quoi le service de chariot qui était offert? Il y en avait combien disponibles dans un premier temps?
OK.
Au niveau du nombre, combien de chariots disponibles?
Bon, alors, j'ai vérifié au niveau des chariots. Il y avait au 23-50, 8 chariots. Au 24-50, qui est la tour des filles, il y en avait 4. Et au 24-42, il y en avait 2. Encore une fois, dans le but d'aider les étudiants à mieux planifier leur déménagement, on avait mis dans la lettre du 19 avril que les gens pouvaient réserver à l'avance un chariot en contactant Mme Roberge ou Mme Brouillard. a 70 personnes qui s'en sont prévalues de ce service-là.
À quel moment, quand vous dites qu'il y a 70 personnes qui s'en sont prévalues, on se parle de quelle période?
Ben, à compter du 19 avril, parce que les gens ont reçu la lettre, ils ont commencé à communiquer avec l'administration pour réserver à l'avance leur charge.
Ça va jusqu'à quelle période, les utilisations des chariots, les statistiques de 70 réservations? À partir du 19, je comprends, je crois qu'elle
existe. Ça va aller jusqu'à la première semaine.
Il y avait combien d'ascenseurs disponibles dans la tour ouest à partir des travaux?
Il n'y avait qu'un seul ascenseur qui était mis à la disposition parce que pendant qu'on faisait les travaux, l'entrepreneur, lui, avait besoin d'un des deux pour transporter ses choses. Puis ça, c'est une autre des raisons pourquoi on pense que les gens étaient mieux servis dans la tour ouest. Alors à la tour ouest, il y en avait deux de disponibles.
Pendant l'été?
Pendant tout l'été.
La location des... Comment ça procédait? C'était un dépôt de 10 $ pour les chariots?
Oui, on a demandé un dépôt de 10 $ pour les chariots parce que les gens n'apportaient pas les chariots, donc on est assuré que ça revienne dans les délais qu'on s'est entendu.
Quand, dans les faits, est-ce que les gens rapportaient les chariots?
Non, pas toujours. C'est sûr que des fois, les étudiants, il y a un étudiant, voyez un autre étudiant, ben, passe-moi ton chariot, je vais le rapporter pour toi, ou je te ramène dans une heure. C'est pas toujours suivi.
Les travaux ont commencé le 8 mai, ça c'est à quel étage le 8 mai? À la tour ouest.
Bon, alors à la tour ouest, les travaux ont commencé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, donc on a commencé par la démolition au 8e, 9e, 10e étage.
À quelle date?
Le 8 mai.
Est-ce que le 8 mai, il était possible de rester dans les studios de la tour ouest? Quelqu'un qui voudrait rester au 8e, 9e
étage? Non, c'était pas possible. Les gens sont arrivés, les démolisseurs, on a tout enlevé, arraché le tapis, les studios. On ne pouvait pas rester là, ça c'est sûr et certain.
Il n'y avait personne, ni des cours de français, ni une clientèle qu'on a appelée touristique, plusieurs reprises durant l'enquête. Il n'y avait personne qui était là pour le 8e, 9e.
Non, il n'y avait personne. D'abord, ce n'était pas une clientèle touristique, c'était des étudiants en plein. Puis, deuxièmement, il n'y avait personne qui est resté au 8e, 9e, 10e, c'était en démolition.
Donc, est-ce qu'il y a eu on a entendu aussi dans l'enquête des personnes qui ont quitté subséquemment après le 8 mai, là, pourquoi ils ont pu quitter un peu après le 8 mai leur résidence de Tour Ouest?
Oui, j'ai entendu des gens qui ont quitté jusqu'au 12 mai, je pense. C'est parce qu'ils avaient des examens. Ils étaient dans les étages supérieurs. Donc, pour cette raison-là, ils pouvaient prolonger.
Et les personnes qui ont refusé de déménager?
Oui. Il n'y a personne qui a refusé de déménager, tout le monde est venu.
Ceux qui ont quitté, donc, il y a combien de personnes ont quitté la tour ouest pour aller vers la tour qui forcément avaient décidé de prolonger leur séjour et qui sont allés finalement vers la tour est ou vers une autre tour, parce que la majorité, je peux comprendre, sont allés dans la tour est. Combien de personnes, donc, prolongé leur séjour et étaient dans cette situation?
Alors, les gens, il y en a eu environ 200 qui ont passé de la tour ouest à la tour est.
Pour
toute la période
de l'été ou
une
partie de l'été?
Ouais,
à la tour est ou à la tour est, à la tour Thérèse Cajerin principalement tout le reste, c'est clair, mais beau 200, c'est tout le monde, ça, ou si c'est, il y en a 200 là, 72 ailleurs.
Moi, je dis qu'il y en avait 200 total, 90% étaient à tout le reste, 10%. C'est vraiment une minorité qui se trouvait à tout le reste, quand même. Au
24-42.
Il était au 24-42.
La situation que, justement, on dit qu'il n'y en a pas eu, le 24-42, qu'est-ce qui se passe l'été?
Ben, le 24-42, pour des raisons de logistique, et aussi ça a été une demande de l'ancien président de l'ARCO, tous les gens du 24-42 et de l'annexe déménagent chaque année. C'est pour ça qu'ils ont, on leur explique leur frein de logement, de studio, et ils signent un accord de déménagement. Ils savent, avant de rentrer dans ce studio-là, qu'ils auront à déménager. Pourquoi? Parce que, entre autres, les étudiants permanents se plaignent que les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre là à l'année ne connaissent pas les lieux, ils ne portent là, ils font du bruit, et vice-versa. Donc, c'est pour rendre service à tout le monde, donc on regroupe les gens.
Et qui est logé à chaque année normalement au 24-42 et l'annexe d'été?
Alors ça peut être des gens de l'école française, ça peut être des touristes de passage.
Lorsque les gens ont déménagé de la tour ouest à la tour est, donc le studio, est-ce que c'est la tour est, tour ouest, là, est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Avant rénovation.
Si on regarde une chambre à la tour ouest et une chambre à la tour ouest, avant rénovation, c'est différent. C'est pareil.
C'est le même loyer?
C'est le même loyer, c'est la même dimension, ça fait 3 mètres par 3 mètres. C'est pareil. C'est le même mobilier avant rénovation.
Donc, cette preuve va amplement démontrer également la distance entre les deux tours, c'est quoi, une cinquantaine de mètres?
C'est pas très loin, effectivement.
Concernant les travaux de l'été 2000, tu as déjà dit les raisons pour lesquelles les gens de la tour ouest ont déménagé vers la tour est. La situation, vous avez installé, il y a certaines personnes qui sont arrivées, donc les gens qui auraient dû être à Trois-Rivières, je comprends bien, ont été installés temporairement sur la tour ouest. À partir de quelle date, là, si vous voulez?
À partir du 7 mai, 8 mai.
Est-ce que ces gens-là ont eu, comment dirais-je, quelle a été leur relation avec l'administration pendant leur séjour?
Ah ben, on a eu des plaintes, c'est sûr, on a eu des plaintes sur le bruit, ça a même monté là, jusqu'au Conseil des ministres, alors, parce que c'est un programme fédéral. C'est sûr que les gens, on doit, il faut se rappeler que ces rénovations-là étaient nécessaires, on a expliqué les raisons de sécurité et tout ça, on n'avait pas le choix. Mais ces gens-là, c'est sûr qu'il y avait le bruit, la poussière, ils ont vécu ça, ça les sentait, quand ils étaient dans ce fait.
Et ça, ce sont les gens donc,
qui étaient de la faculté d'éducation de la langue.
De Jarret-Ouest.
De Jarret-Ouest.
Ils sont restés là, quoi, 5 semaines?
Oui, 5 semaines.
Est-ce qu'ils auraient pu rester, prolonger leur séjour tout l'été?
Non, c'est un programme qui se déroule sur 5 semaines. On avait un mois et demi, puis un mois et demi.
Alors, les travaux ont débuté le 8 mai, ça c'est à la tour ouest.
La tour ouest.
Oui. Les travaux à la tour est ont commencé à quel moment?
Ça a commencé à fin juillet.
Les travaux pour la tour est, c'est peut-être quelle nature? Vous vous référez peut-être à ce que c'est la nature qui est décrite ici à la vie du 22 mars.
Alors, pour ça, la tour est, c'était essentiellement la réparation de ce qu'on appelle la coquille extérieure, le revêtement extérieur. Il n'y avait pas de travaux à l'intérieur. Ça fait partie d'une deuxième phase.
Qui va venir
à l'été 2001.
Pour la tour ouest, les travaux qui sont décrits à trouver votre note de service du 22 mars, c'est bel et bien ce qui a été accompli au cours de l'été 2000.
Oui, exactement. Alors, si on regarde les travaux de cet été, en 1996, c'est environ 440 chambres à l'intérieur qu'on a fait. Et puis on a fait il y a 12, 2, 24, 48 salles de bain. Et puis on a fait aussi d'autres travaux de traction, des choses comme ça.
Été 2000. Pourquoi on a fait de rénovation à partir du 8 mai 2000 et pas une autre date?
Parce que c'était tout un enchaînement, c'était une séquence. C'est qu'on a commencé le projet en juin 1999. Il y a eu toutes les étapes là, avec les architectes, les patrimoines, etc. Jusqu'au moment où on s'est rendu à l'entrepreneur. Lorsqu'il a été engagé, il nous a informé de comment ils pourraient faire les travaux. À ce moment-là, on a envoyé l'avertissement.
Mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que les travaux se déroulent l'été? L'automne, ben, l'hiver?
Nous, on a considéré que l'été, c'était la meilleure période. Parce que, d'abord, parce qu'il y a moins de monde dans les résidences. Aussi parce que on l'a vu, beaucoup de locataires qui étaient là durant l'été n'étaient pas aux études. Et il y a aussi les travaux extérieurs durant l'hiver, évidemment, ça se fait plus difficilement. La meilleure période, le moment le plus tranquille, si vous voulez, aux résidences, c'est durant l'été. Et puis, pour toujours la même raison, c'est qu'il y avait un caractère urgent à le faire.
Et qu'est-ce que les résidences ont fait pour... quels ont été des efforts qui ont été faits, s'il y en a eu, pour réduire les inconvénients inhérents à ce type de travaux, des rénovations, d'ampleur, on pourrait dire, c'est important ce qui est fait.
Bien, d'abord, vous mentionnez, c'est un projet de 12 millions. On a fait 8 millions de rénovations cet été. Alors, c'est pas un petit projet, ça, c'est sûr et certain. D'autre part, qui dit construction dit souvent un horaire de 7h à 3h. Les gars de construction sont habitués à 7h30. Et moi, ce que j'ai fait de valoir auprès du gestionnaire de projet, auprès de l'entrepreneur, c'est qu'on a des locataires qui vivent là. C'est pas une tour de bureau, là, c'est une tour où il y a des gens là. Et on a demandé à ce qu'il y ait un horaire modifié, exceptionnellement, que les gens travaillent de 9h à 5h. Ce qui n'est vraiment pas le cas actuellement. Dans des chantiers similaires.
Quel est le gestionnaire de projet?
C'est gestion Claude Labelle, et puis la personne qui était mandatée, c'est Mme Véville. Oui,
qui?
Véville.
Vous avez adressé un subvenant. L'horaire de travail qui a été requis, est-ce que c'était au stade pré-soumission ou c'est après le coup de soumission?
Non, c'était avant la soumission, ça fait partie de la négociation.
Parce que là, on parle de l'heure de travail. Vous, est-ce que vous étiez sur place pendant l'été?
Oui. Moi, j'ai un horaire normalement de 9 à 5, mais je parle souvent du 9 à 5. Là, je suis plutôt là de 8 à 6. Ce qui me permettait, il y a des gens qui ont dit, il me semble qu'on a entendu du bruit à 8h30, 9h15. Occasionnellement, ça a pu arriver. De sorte que, comme j'étais sur place, à ce moment-là, je communiquais tout de suite avec la gestionnaire de projet pour lui dire, écoute, j'avais un peu le rôle, si vous voulez, de chien de garde à ce niveau-là, là, de m'assurer que les ententes étaient bien respectées.
Vous êtes donc sur place combien de jours par semaine?
5 jours par semaine.
Votre bureau est situé sur place?
Oui, mon bureau est à la tour de l'Ouest, au 72-81.
Et le soir, quand vous quittiez?
Il y avait moins de débordements le soir que le matin.
Des inconvénients qui ont été subis, quelle a été la politique, pour le déménagement dans un premier temps, et deuxièmement pour les inconvénients reliés au bruit. Qu'est-ce que l'université, le service des résidences plus particulièrement, a considéré pour des dédommagements similaires?
On a fait un dédommagement d'une valeur qui pourrait atteindre jusqu'à 40 $, qui a été donné au prorata finalement la durée du séjour de l'individu.
Ça, ce dédommagement-là, c'était pour quelle raison particulièrement?
Pour le bruit et la poussière.
C'est pas relativement à d'autres frais ou d'autres pertes monétaires. C'est uniquement relativement au bruit et la poussière.
Oui, effectivement.
Pouvez-vous nous décrire comment vous en êtes arrivé à ce montant de 40 $?
On a considéré que l'horaire de travail était entre 9h et 18h. Moi, les pauses et les repas se faisaient 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Alors, ce qui équivalait à 8 heures par jour, environ un tiers de la journée, fois 5 jours, fois en moyenne.
C'est pas trop vite,
non? C'est trop vite pour vous, hein.
Voulez-vous que je rappelle? Le temps doit prendre des notes. Alors, dans un premier temps, vous avez considéré les travaux étaient donc de 40 heures par semaine?
C'est ça. Alors, comme on considérait 8 heures par jour, ça faisait un tiers de journée, multiplié par 5 jours, multiplié par une durée moyenne de 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? Parce que les travaux varient vraiment d'un étage à l'autre, d'un building à l'autre. Moi, j'étais dans la ville ouest. Par exemple, on était en train de driller sur la façade de mon bureau. C'était pas le même bruit que s'il drillait, par exemple, sur la façade du 19e. Moi, je suis du côté ouest, est, c'est beaucoup. Alors, on s'est dit, grosso modo, une moyenne de 4 semaines me semblait assez représentative. Alors, si je pars de ce calcul-là, ça équivalait à une perte de jouissance d'environ 21%. 21% du loyer pour une chambre 5, ça faisait 38,97. Pour une chambre 2, ça faisait 69,73.
Conséquemment, est-ce que vous avez effectivement versé une telle indemnité aux locataires?
Oui, l'indemnité a été versée à tous les gens, même les gens qui quittaient le 1er juillet. Ça a été fait. Ceux qui quittaient, on leur donnait au fur et à mesure. Et puis, pour les autres, on a fait une réduction spéciale dans leur historique de compte au 1er juillet.
Quand vous avez dit une compensation jusqu'à 40 $, là, est-ce qu'il y a certains cas qui n'allaient pas jusqu'au montant de 40 $?
Il y a eu quelques cas d'exception qu'on a considérés, effectivement, qui n'ont pu atteindre jusqu'à 80 $.
Au niveau du déménagement lui-même, il y a eu des compensations qui ont été également versées, qui n'ont pas de révéler, mais c'était basé sur quoi? Comment vous avez traité finalement les demandes, s'il y en avait, dédommagement pour les coûts? Est-ce qu'il y avait pour les frais?
Il n'y avait pas de frais de déménagement pour les gens, il n'y avait aucun coût. Quelqu'un qui déménageait la tour ouest à la tour est, ou la tour est à la tour ouest, il n'y avait aucun coût.
Il n'y a pas eu de frais chargés pour ça?
Non.
Et les inconvénients résultant du déménagement, par exemple les débranchements de câbles, de belles téléphones et compagnie, est-ce qu'il y a eu également des considérations qui ont été reconnues et des versements effectués?
Oui, effectivement. Bon, il y avait deux niveaux.
Comment ça fonctionnait au niveau de l'administration?
Alors, quelqu'un qui devait déménager la tour ouest à la tour est, ça avait occasionné des frais, par exemple, pour Vidéotron ou bien pour Bell. Il faut comprendre que le système téléphonique, il y a un système téléphonique à l'université, mais les gens ont toujours la possibilité de prendre aussi une ligne téléphonique avec Bell. Alors, si ça occasionnait des frais liés au déménagement, sur présentation de leur facture, nous, on les remboursait. Il y en a eu quelques-uns dans ce cas-là. D'autre part, aussi, quand les gens ont déménagé de la tour ouest à la tour est, il y a eu quelques jours.
De la tour
ouest à la tour est, il y a eu quelques jours où il n'y a pas eu d'Internet. Alors, on
n'a pas eu de?
D'Internet.
OK.
Peut-être 2-3 jours, alors on leur a donné le mois gratuit.
Ça représente combien les frais d'Internet pour un mois?
C'est 25 $ pour le mois.
Le mois gratuit, donc c'est le mois de mai?
Le mois de mai, oui. Pour ceux qui déménagent.
Maintenant, si c'est un document réduction de 25 $, est-ce qu'il s'agit de les biens tout
le mois? Oui, c'est ça. C'est le bon document.
Ça a été appliqué comment, cette réduction?
Directement sur leur compte. Il est venu réduire encore une fois la facture.
En fait, 24. Je n'ai pas malheureusement de... Avec la vie? Le Bell Vidéotron, alors ça les étudiants, comment devaient-ils procéder pour obtenir le remboursement?
Il n'avait qu'à se présenter auprès de l'administration avec les preuves et puis on faisait le renforcement.
Au niveau du retour prévu entre le 21 et 28 août, comment ça a procédé? Est-ce qu'il y avait des services qui ont été au niveau encore du chariot et compagnie?
Oui, c'est toujours le même principe. On a offert des chariots aux gens qui voulaient déménager. Et on s'est assuré là, qu'il y avait deux ascenseurs disponibles dans la tour ouest quand ils ont déménagé de la tour est à la tour ouest.
Est-ce que les étudiants pouvaient revenir à une date fixe? Ils devaient revenir à une date fixe entre les 21 ou 30 août?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, on a fait circuler un document où les gens indiquaient leur préférence quant à la date de déménagement. Ils cochaient une case, tout simplement. Tout le monde a pu réintégrer sa chambre.
Vous avez, avec l'avis du 19 avril 2000, ce document, donc, faisant l'onglet 5, était accompagné d'une annexe intitulée Conditions afférentes au bail des locataires. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, dans un premier temps, le but de ce document-là et pourquoi ce document-là est accompagné de l'avis du 19 avril?
Bon, alors, on est dans une situation où on a des nouveaux studios sans la location. Et on demande aux gens, finalement, de ne pas refaire la peinture, de conserver le frigo, etc. L'expérience qu'on connaît, c'est que les gens, lorsqu'ils laissent leur chambre, laissent les trous dans les murs, le mobilier brisé, on se retrouve avec des peintures qui sont des couleurs, des fois, un peu trop marquées. Et on a une responsabilité vis-à-vis d'un résident qui est actuel ou futur. Le résident futur, lui, il s'attend à avoir une chambre qui est conforme. L'étudiant qui est sur place et qui quitte, lui, va la laisser dans un état qui ne sera pas acceptable pour l'autre.
Et c'est quoi votre expérience par rapport à ça dans les années? Ça fait 3 ans que vous êtes à la direction des résidences.
9 fois sur 10, les gens quittent et puis ne font pas de suivi là-dessus. Et pour nous, c'est excessivement difficile de recourir auprès de l'étudiant qui a quitté. Il ne faut pas oublier, l'étudiant, il est là pour 8 mois. Il n'y a pas un bail sur plusieurs années. Alors, il réaménage sa chambre et puis il part sans laisser d'adresse. Et nous, on a une responsabilité de remettre ça dans le moment. Il y a beaucoup de coûts associés à ça. Du temps aussi.
Les étudiants, là pour 8 mois, je vous présente un tableau intitulé « Ancienneté des résidents ». Vous pouvez nous décrire quel est exactement, ça reflète quoi ce tableau-là?
Oui, on a fait des statistiques pour voir...
P25.
Ça serait P25.
On a fait des statistiques parce qu'on voulait voir un peu de quel ordre était la mouvance des étudiants, comment ça se présentait. Et à partir des statistiques, ce qu'on a vu, c'est que ceux qui restent moins d'un an représentent 53,7% de la clientèle. Alors, il y a 620 locataires qui quittent moins d'un an, ça veut dire qu'ils prennent finalement un bail de 8 mois. Ceux qui sont là au moins... un an, il y en a 232. Alors, un an et moins, il y a 73,8% de gens qui quittent. Alors, c'est pour ça que pour nous, au lieu de faire en sorte d'être obligé de rénover, de peinturer, de remplir les trous, de demander à les ministres de réparer le mobilier, ce qu'on veut, en fait, c'est que l'étudiant ou le locataire soit responsable de ce qu'il a et qu'il le laisse dans un bon état.
La situation jusqu'à récemment, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans les résidences? Vous m'avez parlé des trous, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on constatait lors du départ des étudiants?
Les étudiants, comme ils veulent amener leur vue, ils ont dit, moi, je vais amener des meubles, mon fils. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le meuble et ils le mettent dans le corridor. Il est inconnu, puis responsable de rien. Prennent le matelas et le mettent dans le corridor. Le matelas, il disparaît, il se fait voler, il ne sait pas, il est au courant. Nous, après ça, il faut qu'on rachète des matelas, il faut qu'on s'assure. Après ça, il y en a qui ont dit, j'arrive dans ma chambre et puis là, j'ai pas de lit. Ben oui, il n'y a pas de lit, c'est sûr. Parce que le locataire précédent, il a mis le lit dans le corridor, puis il est parti. Alors nous, pour s'assurer qu'on remette le lit, qu'on retrouve un matelas, qu'on mette la chambre en ordre, ça se fait pas là, du jour au lendemain.
Au niveau de l'aménagement, est-ce qu'il y a également d'autres choses que vous avez constatées?
Il y a un cas, entre autres, que je me souviens, il y avait un étudiant qui avait pris son lit, qui avait mis quatre chaînes à chaque extrémité, qui l'a suspendu au plafond. C'est sûr que quand on se retrouve dans une situation comme ça, il faut que les bénisses passent, il faut que le plâtrier passe, il faut que le pain passe. Alors, c'est sûr que c'est des dépenses additionnelles. Il ne faut pas oublier, nous, on est là, finalement, pour payer le loyer le plus bas possible pour les étudiants. On veut réduire les dépenses. Alors, si l'étudiant laisse sa chambre dans un état comme ça, ça augmente les dépenses. Puis qui paye, dans le fond, c'est toujours la collectivité.
Au niveau de l'affichage, on voit ici, parler beaucoup de restrictions à l'affichage. On va parler d'abord de l'affichage externe. Quelle était la situation jusqu'en mai 2000?
Ben, au niveau de l'affichage, c'est toujours le même principe. On vient de faire la pension là, on vient de se faire, de sorte que si tout le monde s'est affiché, c'est sûr que ça ne restera pas longtemps, il va falloir encore investir. Là, on vient d'investir 12 millions, c'est sûr que demain, on n'a pas les moyens de réinvestir à nouveau. Dans les affichages, on a eu toutes sortes d'affichages. On a eu...
On parlait d'abord de l'affichage dans le corridor, de l'affichage extérieur. Quelle était la situation que vous avez constatée depuis 3 ans?
Alors, on a vu des affichages à nature pornographique, on en a vu à nature religieuse, et ça dérange certains locataires.
Absolument. Est-ce que vous avez reçu des plaintes à cet effet-là?
Oui, on a eu des plaintes à cet effet-là. C'est pas tout le monde qui partage les mêmes vues, les mêmes visions, et puis nous, on est mal placés pour montrer ce genre de situation.
Et au niveau de l'affichage, ce qu'on appelait personnaliser la chambre, qu'est-ce que vous avez constaté dans la situation jusqu'à cette année?
Ben, jusqu'à cette année, les gens, ils personnalisent, ils mettent des cas, ils font des trous, ils mettent des bibliothèques, mais après ça, comme j'expliquais tout à l'heure, ils partent et ils laissent ça dans l'état tel qu'il est. Nous, ce qu'on dit, c'est que on a mis une peinture qui est plutôt neutre, qui est une belle peinture, et on permet aux gens de mettre des posters ou ce qu'ils veulent, mais avec la gommette, de sorte que ça ne vienne pas, parce qu'encore une fois, ils sont là 8 mois. Ils ne sont pas là 10 ans, ils sont là 8 mois.
Je présente ici un tableau. Vous pouvez nous dire exactement de quoi il en est, pourquoi il s'agit.
C'est en date d'aujourd'hui. C'est en date de cette année. La date est inscrite en bon compte.
C'est
un AP26.
On a également, pour faire de surprise, des statistiques Tour Thérèse Casgrain 22-42, toutes les statistiques que vous voulez qui sont ici aussi. Alors, pouvez-vous nous indiquer de quoi il s'agit? Ce document-là reflète quoi exactement?
Bien, ce sont des statistiques qui décrivent les anciens et les nouveaux. Alors, les anciens, ça dénonce finalement.
Comment on est considéré ancien?
On est considéré ancien si on était là l'année dernière. On est considéré nouveau si c'est notre première année aux résidences. Et on a fait le décompte finalement sur chaque étage qui est ancien et qui est nouveau.
Quand on dit on était là l'an dernier, là, c'est pas il y a 2 ans, là,
uniquement l'an dernier.
Ces statistiques-là, c'est daté de quand?
On voit la date en bas à gauche, c'est daté du 12 octobre.
Donc quelqu'un qui est nouveau, ça veut dire qu'il est nouveau de septembre 2000.
Oui.
Et ancien, ça veut dire qu'il était là il y a un an.
Oui, conformément dans le fond aux statistiques qu'on retrouve, on dit qu'il y a à peu près 600 personnes qui déménagent au terme du bail des 20 ans.
26. De frigo pendant l'enquête. Alors, quel était le but visé par l'annexe, le pourquoi indiquer le frigidaire devient à ce moment-là obligatoire avec une location de 9$ par mois?
Et on a une flotte actuellement de réfrigérateurs de 901 frigos. Alors, c'est sûr que de déménager les frigos à tout moment, c'est une logistique qui est très lourde, c'est sûr, d'une part. Et d'autre part, à force de déménager, finissent par se briser. Les entreposés finissent par se briser aussi. Alors, on offre un meilleur service, finalement, en les laissant dans les usines.
Est-ce qu'il était possible pour un locataire qui veut conserver son frigo de le garder effectivement à travers sa vie en résidence?
C'est sûr, parce qu'on est dans un moment de transition, donc on le ferait toujours à l'étudiant qui voulait se préserver de son frigo, de rester dans la tourbesse avec les mêmes conditions qu'il connaissait auparavant.
On parle de frigo, est-ce qu'il peut conserver également son futon ou autre accessoire?
Il peut conserver ce qu'il désirait comme avant.
Il dit ici, là, qu'est-ce qui arrivait d'un étudiant qui indiquait, je demande, parce qu'on est toujours à l'annexe qui accompagnait la vie du 19 avril, vrai deux choix. J'ai pris connaissance des conditions et m'y conformerai, ou je demande que la direction me loge dans un studio non rénové. Quelqu'un qui indiquait le deuxième choix que je pouvais arriver à cet étudiant-là.
À ce moment-là, il nous indiquait dans quel studio il désirait déménager et puis on l'a trouvé.
Est-ce qu'un étudiant qui n'a pas obtenu de studio suite à cette décision de déménager, de changer de tour?
Il n'y a personne qui s'est retrouvé à l'extérieur des résidences parce qu'il avait coché qu'il ne voulait pas avoir un studio rénové. Tout le monde a eu droit à son studio.
Est-ce qu'il y a eu des directives à l'effet d'indiquer ou de contraindre ou quoi que ce soit l'étudiant à changer de studio ou à rester en place?
Personne n'a été forcé, ça a été fait sur une base de stage. Ils avaient le choix entre les deux. Quelqu'un voulait réintégrer plus tard, mais tout le monde a réintégré selon son besoin.
Est-ce que vous avez des commentaires à faire relativement à certains des témoignages qui ont été entendus lors de l'enquête?
Oui, alors il y a un des témoins qui confirmait avoir quitté au 1er juillet, c'est M. Jérôme Vélan. Alors que moi, j'ai comme information ici qu'il a quitté le 3 juin. On se rappelle, c'était une jeune fille qui était mandatée.
Par M. Vélan, le 3 juin.
Il disait qu'il avait quitté le 1er juillet, alors que c'est le 3 juin. Aussi, j'ai.
Il aurait mis ses clés à quelle date?
Le 3 juin.
Est-ce qu'il a payé du loyer après le 3 juin?
Non, il n'a pas payé le loyer.
C'est ce qu'il avait dans le papier.
C'est ça qui était indiqué.
Il a quitté le 3 juin.
C'est vrai. Il a quitté le 3 juin. C'est ce qu'il a témoigné.
Non, c'est faux. Non, je ne sais pas. Dans votre document, avec quelle chose? C'est long également.
Il a été corrigé. Ça, c'était au mois d'août. Les données qu'on avait en juillet, mais il est resté jusqu'au 3 juin. Alors peut-être parce qu'il a simplement indiqué qu'il voulait initialement rester jusqu'au 1er juillet, mais il a quitté, il a remis ses clés le 3 juin. Il n'a pas payé de loyer après le 3 juin. Il est peut-être resté en ce mois là, je ne sais pas, mais il n'a pas payé après le 3 juin. C'est clair. Comment ça fonctionne qu'un étudiant qui quitte, parce que là on peut faire produire un document, comment est-ce qu'on s'assure qu'un étudiant, lorsqu'il quitte, là, est-ce qu'il y a des clés à rendre, est-ce qu'on lui prépare une liste, comme ça se fait à n'importe quel type de service, là, une
facture finale, etc.
En bon français, on fait le check-out.
C'est ça, vous ne voulez pas.